Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Radio FM+. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle rencontre, brève rencontre. Et aujourd'hui, je vous invite à partir à la rencontre d'une femme. Vous avez remarqué que j'aime beaucoup partir à la rencontre de femmes. Et cette femme s'appelle Judith. Judith qui est connue, énormément connue, surtout par l'iconographie. En réalité, c'est à l'aube du XVIIe siècle. Lorsque les peintres abordent l'époque baroque, ils vont peu à peu délaisser les annonciations, en réalité pour se focaliser sur des scènes beaucoup plus sanglantes, des scènes qu'on appelle particulièrement des décollations. Alors il y a évidemment David qui coupe la tête du géant, il y a Jean-Baptiste aussi dont on serre la tête à manger sur un plateau, et puis il y a Judith qui coupe la tête du général Holoferne. Alors, elle est très connue, Judith, donc, grâce entre autres au Caravage, qui va défrayer la chronique, d'ailleurs, par sa représentation sanguillonnante de Judith. Et puis, il y en a une, à l'époque même de Caravage, qui est tout à fait spéciale et que j'aime particulièrement, c'est Artemisia Gentileschi. Parce qu'elle, elle va représenter par deux fois, justement, Judith, cette femme, avec sa servante, au moment où elle coupe la tête du général Holoferne. C'est quand même étonnant de voir qu'une femme, Artemisia, a cette telle aura et qu'elle se permet de représenter une telle scène. C'est intéressant. Et c'est surtout très parlant, aujourd'hui encore, parce que justement Artemisia fait partie de ces peintres femmes dans une époque où il y avait quand même très peu de femmes peintres, mais qui ont une vie, et elles vont se servir justement de cette histoire biblique, particulièrement justement de Judith, pour représenter les douleurs de leur vie. Judith, cette femme forte qui coupe la tête d'Holoferne, en fait va permettre à la peintre, à Artemisia, eh bien, en quelque sorte, de montrer la douleur qu'elle a eue, puisqu'elle s'est fait violer, elle, et qu'à la suite de ce viol, qui a été plus ou moins reconnu, mais elle a quand même été violentée, elle a été torturée pour lui faire avouer que c'était vraiment un viol, et puis finalement, son violeur n'a pas été vraiment puni. Donc, cette trace profonde, cette douleur profonde, cette injustice, eh bien, elle la met en scène à travers Judith. Et c'est pour ça que notre Judith, nous pouvons encore aujourd'hui entendre son histoire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Judith ? Eh bien, l'histoire de Judith, elle est racontée dans un livre éponyme qui s'appelle Judith, alors qu'on ne trouve pas vraiment dans les Bibles protestantes, mais qu'on trouve encore aujourd'hui dans les Bibles catholiques, dans ces livres que l'on dit deutérocanoniques. Et puis, on les trouve aussi dans la traduction œcuménique de la Bible qui a réintroduit ces livres que les protestants appellent apocryphes. Alors certes, c'est livre qu'on ne trouve pas dans l'Ancien Testament, dans sa version hébraïque de l'Ancien Testament, ont tout de même quelque intérêt. D'abord, je voudrais juste dire que finalement, cette mise à l'écart des livres apocryphes chez les protestants se fait tardivement. À l'époque de Luther et de la Réforme, au début, on avait gardé ces livres apocryphes. Et puis, certes, ils n'avaient pas la même valeur que les autres livres de la Bible hébraïque, mais on les avait tout de même gardés parce qu'ils parlaient de l'histoire du peuple juif et qu'ils avaient tout de même une certaine importance. Mais au XIXe siècle, la société biblique en Angleterre a voulu, et c'était tout à fait formidable, que tout le monde, enfin que dans chaque famille il y ait une Bible. Et bien pour que dans chaque famille il y ait une Bible, il fallait beaucoup de papier. Et du coup, on a décidé, comme ils étaient certainement moins importants, de retirer ces livres apocryphes de nos Bibles. Donc aujourd'hui, dans les Bibles protestantes, on ne les trouve pas, mais on les trouve tout de même dans les Bibles catholiques et dans la traduction œcuménique dans la Bible, et bien sûr dans la Bible orthodoxe. Donc, on va partir à la rencontre de Judith dans ce livre de Judith qui se trouve dans la Bible, dans la traduction œcuménique de la Bible. On la trouve entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament avec d'autres livres comme Tobie, Maccabée et bien d'autres. Alors, ce livre, il est quand même très intéressant, même si en réalité, il ne se trouve pas dans notre canon. Qui est-elle, cette Judith? Eh bien, Judith, c'est une jeune veuve habitante de la ville de Béthulie, et on nous dit qu'elle est très belle. J'aime bien commencer par là, parce que la beauté est très importante dans ce récit, et surtout dans le contexte et l'époque dans laquelle c'est intervenu. La reconnaissance de la beauté, cette en quelque sorte apologie de la beauté, est quand même quelque chose qui résonne à cette époque, puisque c'est l'époque grecque probablement, à l'époque où Judith est rédigée, triomphaient donc ces Grecs et leur esthétique de l'harmonie. L'auteur de Judith comprend que les Juifs ne peuvent laisser aux païens, donc aux Grecs, le monopole de l'admiration que provoque un beau visage, particulièrement lorsqu'il enveloppe une âme capable d'héroïsme. Et c'est le cas de notre héroïne. L'auteur ne manque pas d'humour lorsqu'il énonce que les attributs de la vraie religion peuvent être la beauté de celle qui la pratique. Ainsi, il évite le danger que le reversement divin de l'échelle grecque des valeurs aboutisse à l'apologie du laid. Il renverse en effet les échelles de valeurs, mais il garde la beauté. D'ailleurs, il y a d'autres passages dans la Bible hébraïque, là pour particulièrement, lorsqu'on nous dit que David était aussi d'une grande beauté. Donc l'histoire de Judith nous est racontée dans son livre, un petit livre qui fait 16 chapitres. Un livre un peu à part, donc, mais qui est tout de même tout à fait intéressant, je dirais même, moi personnellement, il m'a assez captivé. C'est d'abord ce livre, une sorte d'anthologie de l'histoire d'Israël, et en particulier des femmes qui ont compté, et une anthologie de la violence. Une anthologie, mais certainement pas une apologie de la violence. Ce petit livre est là pour redonner de l'espoir, l'espérance à un peuple qui est en pleine occupation et probablement exsangue. Ça, c'est le peuple auquel s'adresse ce livre de Judith, qui est certainement les Juifs qui sont occupés par les Grecs et qui ont vu leur temple profané et qui sont dans un désarroi profond. La foi est centrale chez Judith. Elle ne peut agir que parce que sa foi est à toute épreuve. Il y a ici une rupture avec une certaine théologie de la rétribution. La rétribution non par les actes, même s'il y a des actes, mais par la foi. La foi est là, présente, y compris dans l'épreuve. Il y a d'autres femmes guerrières dans la mythologie. On pense aux Amazones. La plupart des civilisations possèdent de ces femmes. Mais ce n'est pas tant le caractère guerrier de Judith qui va nous interpeller, même si l'iconographie a fait passer cela en avant, mais au contraire, sa conviction, son engagement qui s'appuie sur une seule et unique chose, la foi dans le Dieu d'Israël, le seul vrai Dieu pour tous. Alors quel est le cadre de ce livre? Le cadre historique, géographique et volontairement flou, voire complètement faux. Donc on voit dès le début qu'il s'agit bien plus d'un conte qui est là pour nous amener à réfléchir, à donner du sens et à donner de l'espoir, parce qu'en réalité on nous parle du roi Nabucodonosor qui est un Babylonien, sa capitale serait Ninive, au moment où Nabucodonosor intervient, eh bien Ninive a disparu. On nous parle de plein de lieux géographiques assez étonnants, et puis il devient roi d'Assyrie. L'épisode qui nous est raconté se situe, comme c'est dit au fur et à mesure dans le texte, au moment du retour d'exil, au moment où finalement les Juifs ont reconstruit le temple, ou sont en cours de reconstruire le temple, et donc c'est bien après l'époque babylonienne. Donc, et puis la ville de Béthulie, en fait, n'est absolument pas connue. Mais l'auteur sait tout cela, il veut tout simplement brouiller les pistes, comme pour nous dire que finalement ce récit est universel. Ce petit livre s'adresse à toutes celles, à tous ceux qui sont dans une situation sans issue. La dureté de cette situation, d'ailleurs, qui semble sans issue, est largement mise en scène, puisque les 7 premiers chapitres ne nous parlent que de la grandeur, de la puissance et de la violence du roi Nabucodonosor. Il écrase tous les peuples qui ne se soumettent pas, qui ne le reconnaissent pas comme Dieu, et son général Holoferne, eh bien, qui va encercler la ville de Béthulie, et son bras armé. C'est également dans ces premiers chapitres que l'on découvre aussi l'aura du peuple juif et la vie et l'histoire du peuple juif, avec ses pérégrinations, ses déboires, mais aussi sa fidélité à Dieu. Et c'est étonnant parce que c'est à travers le discours d'un étranger, le roi des Ammonites Achior, qui s'adresse d'ailleurs à Holoferne, et qui lui raconte finalement qu'il faut quand même qu'il se méfie de cette ville de Béthulie, qui est une ville peuplée par les Juifs, parce que leur Dieu est puissant et que leur Dieu est le vrai Dieu, et qu'ils sont fidèles à ce Dieu et que ce Dieu, eh bien, leur permet de combattre et même de gagner. Évidemment, Holoferne se rit de cela et il envoie Achior justement dans la ville de Béthulie en lui disant « Tu vas voir, je vais vous assoiffer, je vais vous affamer et je vais ensuite vous détruire. » Et c'est là que l'héroïne Judith, une jolie veuve juive, va intervenir, va apparaître. Le livre a déjà plusieurs chapitres, environ 8 chapitres nous ont décrit cette situation et voici que Judith apparaît. Nous faisons une petite pause avant de retrouver Judith. Voici Judith. Qui est-elle ? C'est une jolie veuve habitante de Béthulie. Une jolie et riche veuve. Donc Béthulie est une ville qui semble barrer l'accès à Jérusalem et les Assyriens doivent la faire capituler. C'est pour ça que, en réalité, eh bien, le général Holoferne, plutôt que de combattre ses habitants de Béthulie, va tout simplement les affamer et surtout les assoiffer, puisqu'il va leur couper l'accès à l'eau. Et là, les chefs de la ville, menés par Ozias, choisissent de se rendre à Holoferne. Ils allaient se rendre à Holoferne, donc le chef de l'armée de Nabucodonosor. Et c'est là que Judith intervient. Elle prie. Elle prie, elle va prier beaucoup dans ce livre, notre Judith. Elle se présente devant eux, devant Ozias et toute cette assemblée d'hommes. Elle a quand même un certain culot parce qu'elle est veuve, sans enfant. Même si elle est riche, elle est quand même pas quelqu'un de très recommandable dans cette société juive du 2e siècle avant Jésus-Christ ou 3e siècle avant Jésus-Christ. Elle demande au chef l'autorisation de se rendre dans le camp de l'ennemi. Elle leur dit que elle va réussir en réalité à faire que, eh bien, les habitants de Béthulie n'auront pas à se rendre au général Holoferne et qui seront vainqueurs. Elle est veuve, elle est belle et elle veut affronter, n'est-ce pas, déjà l'assemblée des hommes menée par Ozias qui veulent se rendre justement à Holoferne et ne pas combattre, mais elle leur dit d'attendre et ils obéissent. Mais avant son départ, elle prie, elle se couvre de cendres, elle jeûne, elle est là entièrement dans sa foi, dans sa prière. Elle n'a aucun doute. Elle sait que ce qu'elle va faire va l'amener à la victoire et va permettre à Béthulie de ne pas capituler. Et puis, après ces prières, ces quelques temps passés en prière et en deuil, eh bien, tout va changer. Voici ce qui nous est dit au chapitre 9. Elle chaussa ses sandales, mit des anneaux de cheville, des bracelets, des bagues, des boucles d'oreilles et toute sa parure. Elle se fit très belle afin de séduire les regards de tous les hommes qui la verraient. Puis elle donna à sa suivante une outre de vin et un flacon d'huile. Elle prit une besace de galettes et de farine d'orge, des gâteaux de fruits secs et de pain blanc. Elle empaqueta tous ses paniers et en chargea sa suivante. Toutes deux sortirent alors, elles se rendirent à la porte de la ville de Béthulie et elles y trouvèrent postés Ozias et les anciens de la ville. Quand ils virent Judith, le visage transformé, évidemment elle n'est plus en deuil, elle est magnifique, Elle s'est parée, elle s'est maquillée. Elle porte d'autres vêtements, sa beauté les plonge dans la plus grande admiration et lui dire que le Dieu de nos pères te tienne en grâce, qu'il te donne de mener à bien ton projet pour l'orgueil des fils d'Israël et l'exaltation de Jérusalem. Donc elle sort, elle va se rendre dans le camp du général Holoferne, et là, évidemment, les gardes la trouvent magnifique, et elle arrive avec sa servante, en quelque sorte, peut-être à les tromper, en tout cas, elle leur dit, ils voient en elle une femme forte qui vient leur dire qu'en réalité, elle se met de leur côté, que le général Holoferne est le meilleur, et qu'elle veut l'aider à rentrer dans le camp. Dans la, une manière de rentrer dans la ville de Béthulie afin de mieux la combattre. Il la croit. Bon, après, le livre court un peu. Elle a rencontré Holoferne, qui la trouve évidemment très belle, qui la veut pour lui. Mais elle essaye, et elle arrive d'ailleurs à mettre tout cela un peu à distance. Elle refuse le premier banquet qu'il lui offre. Et 3 jours se passent. 3 jours qui vont lui permettre de se balader dans tout le camp. Et il la voit partir le matin, prier, se promener avec son sac. Et ainsi, elle devient quelqu'un qui finalement est tout à fait reconnue. Et finalement, elle fait partie de ce décor. Il ne se méfie absolument pas d'elle. C'est là que Holoferne l'invite à nouveau à un banquet. Elle vient et tout le monde boit. Les serviteurs boivent, Holoferne boit, et Holoferne est persuadé qu'il va l'inviter dans sa tente, sur son lit, sur sa couche, et qu'il va enfin pouvoir la posséder. Mais voilà, ils sont tellement ivres tous qu'ils ne se rendent pas compte. Le serviteur s'en va et Holoferne s'allonge. Et c'est à ce moment-là que Judith va se pencher sur lui avec sa servante, elle qu'elle va le décapiter. Le récit de cette décollation ou décapitation est très sobre. Quelques versets que je vous lis au chapitre 13. Elle s'avance vers le montant de lit proche de la tête de Holoferne. Elle en détache son sabre. Elle s'approche du lit, empoigna la chevelure d'Holoferne et dit « Rends-moi forte en ce jour, Seigneur de l'Israël. » Vous entendez qu'à nouveau, même pour cet acte finalement d'une violence inouïe, elle prie Dieu. Par 2 fois, elle le frappa au cou de toute sa vigueur et en détacha la tête. Puis elle fit rouler le corps en bas de la couche et détacha le voile des colonnes. Peu après, elle sortit, confia la tête d'Holoferne à sa suivante, qui la mit dans la besace à provision. Et elles sortirent toutes deux ensemble, comme elles avaient coutume de le faire pour aller prier. Les 2 femmes traversèrent le camp, contournèrent le ravin, gravirent la montagne de Béthulie et parvinrent aux portes de la ville. Ainsi, eh bien, Judith a réussi à tromper tout le monde. Ils avaient l'habitude de la voir aller venir dans le camp, aller prier, donc la voir sortir à nouveau avec ce sac qu'elle avait toujours. D'ailleurs, ça ne manque pas d'une certaine ironie, puisque c'était un sac qui servait à nourrir, dans lequel il y avait ses victuailles, qui lui permettaient de ne pas toucher à la nourriture des Assyriens. Eh bien maintenant, il y a à la place une tête, la tête de cet homme mort. Elle revient à Béthulie et évidemment, elle montre la tête à tous les habitants de Béthulie qui vont mettre cette tête sur une pique et qui vont l'exposer sur les remparts de cette ville qui est pratiquement imprenable, sauf évidemment en affamant les habitants. Et c'est à ce moment-là qu'ils reprennent espoir et qu'ils se disent que eux aussi peuvent aller combattre cette armée maintenant que le général n'est plus là. Quant aux Assyriens, quand ils voient cette tête, eh bien, ils partent en débandade et ils sont complètement vaincus. Et finalement, Béthulie ne sera pas prise. C'est les assiégés qui gagnent. Donc, on voit là que cette femme, avec simplement sa beauté, sa ruse et sa foi surtout, eh bien, est capable de vaincre ce qui semblait impossible. Alors, cette histoire, elle n'a certainement pas existé, mais bon, peu importe, elle nous dit beaucoup de choses. Elle nous dit, d'abord qu'il faut prendre de la distance avec ce récit. Elle nous dit, nous sommes dans une situation d'exception. Et lorsque nous sommes dans une situation d'exception, eh bien, nous pouvons garder l'espérance. Là, toute la ville allait mourir de soif ou par l'épée. Mais plusieurs fois dans le livre, les peuples qui se rendent doivent être en partie exterminés. Et on l'a vu, avec Artémisien, combien la figure de Judith et celle des nombreuses femmes violentées vont pouvoir, eh bien, redonner de l'espoir à elles-mêmes et puis à tout un peuple. Il y a une autre femme d'ailleurs dans le livre des juges, Yaël, qui plante un pieu dans la tête d'un autre général pour permettre au peuple d'être vainqueur. Mais au-delà de la violence de cette histoire, c'est également une prise de distance avec l'observance de la loi pour faire une apologie de la foi. Plusieurs conséquences. Ici, aucune conception rigoriste de la foi. En effet, le jeûne pratiqué par Judith est la conséquence non pas de l'observance de la loi, mais de son deuil, de son malheur. C'est-à-dire que son jeûne représente le fait qu'elle est veuve et qu'elle est triste et qu'elle est malheureuse. Mais ce deuil va lui permettre aussi d'aller de l'avant et d'en sortir. Elle va interrompre tout cela pour aller de l'avant. C'est aussi la réhabilitation du statut des veuves. Même sans l'application des lois du Lévirat, elles peuvent vivre indépendantes, sans forcément être à l'écart de la société. Et c'est ce que va faire Judith. C'est une petite révolution ici encore ancrée dans la foi. Car à aucun moment ce sont des actes qui sont mis en avant, mais sa piété. Et finalement, elle est une figure bien plus exemplaire en cela que David. D'ailleurs, le récit se termine de manière étonnante avec cette mention qui nous dit que, eh bien, Judith a vécu 105 ans. Ça, c'est très intéressant parce que ça nous montre qu'elle est rassasiée de jour, tout comme les patriarches. Elle est une matriarche. Elle a vécu 105 ans, mais jamais elle ne s'est remariée. Et là, on peut s'interroger sur ce qu'est la fécondité. Parce que l'image, la personne de Judith, qui reste veuve, mais qui est tout de même un personnage important, qui va imposer dans sa ville la reconnaissance, et d'ailleurs il y aura 7 jours de deuil au moment de sa mort, eh bien c'est une image qui nous dit que la fécondité ne passe pas forcément par la filiation, par les enfants, mais bien la fécondité de sa foi, son exemplarité, eh bien est là aussi pour nous dire que chacun, chacune, nous avons à donner et nous avons à faire prospérer cette foi et cet amour. Mais elle nous dit que d'une manière constante, la foi est plus forte que la peur, que toutes nos peurs auxquelles nous pouvons couper la tête. Et d'ailleurs, le livre se termine à nouveau par une prière, une magnifique prière, un grand psaume. En cela, elle rejoint d'autres femmes de la Bible qui ont dit, déclamé des psaumes déjà avant elle. Déborah, Myriam, Anne et puis plus tard Marie. Chanter pour son Dieu sur des tambourins, c'est ce qu'elle nous dit. Chanter pour mon Dieu sur des tambourins. Jouer pour le Seigneur sur les cymbales. Joignez pour lui l'hymne à la louange. Exaltez-le. Invoquons son nom. Ainsi, la foi se termine par la joie. Par la joie et une manière de se retrouver ensemble, en peuple, en communauté, cette communauté dont la foi va rayonner sur toutes et sur tous. Elle nous rappelle au passage que tous nous pouvons agir, puisqu'elle, une simple femme, une veuve, a réussi à abattre une armée, tout est possible. Et c'est sur ce tout est possible que nous nous séparons aujourd'hui, jusqu'à une prochaine rencontre qui nous donnera, je l'espère, aussi eh bien, du baume au cœur et de l'espérance dans toutes les situations compliquées, y compris personnelles, que nous pouvons rencontrer. Et nous pouvons donc, en effet, couper la tête de la peur pour garder notre foi. À bientôt !